Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, première de deux émissions aujourd'hui intitulée « La force de la foi », consacrée à la grande pianiste russe Maria Yudina, née en 1899 et morte en 1970. Le titre de nos émissions est inspiré par la lecture de l'abondante correspondance échangée de 1959 à 1970 entre Yudina et l'intellectuel russe de la diaspora Pierre Souvtchinski, correspondance parue cette année aux éditions Contrechamp. Pour en parler, nous recevons Jean-Pierre Collot, pianiste, mais aussi éditeur et traducteur du russe et de l'allemand de la correspondance Yudina Souvtchinski. Jean-Pierre Collot, tous les amateurs de musique connaissent Maria Yudina comme une grande pianiste et artiste. Or, les lettres publiées dans le volume qui vient de paraître nous dévoilent une vraie croyante et même pratiquante en Union soviétique, qui va même parfois jusqu'à faire des rapprochements directs entre les grandes œuvres du répertoire et les textes bibliques.
Bonjour. Eh bien oui, effectivement, c'est une joie pour moi de parler aujourd'hui de Maria Yudina dans cette émission. Une très grande pianiste pour laquelle la religion a toujours joué un rôle de premier plan. On voit ça très très tôt dans le journal qu'on a conservé d'elle à 17 ans, le journal de Nevel, du nom de la ville où elle habitait. Avant de citer un extrait de ce journal, je voudrais rappeler un petit peu le contexte dans lequel naît Yudina. Donc elle naît en 1899, dans une famille juive non pratiquante. Le père est médecin, c'est une famille d'une très grande culture, les échanges sont extrêmement riches. Elle fréquente un cercle de philosophes. La religion est très importante. Elle lit beaucoup Florensky. Elle lit énormément de philosophie allemande. Ce journal de Nevel, par exemple, nous donne la liste des lectures qu'elle veut avoir terminées. Donc, on y lit les noms de Fichte, Schelling, Kant, Hegel. Schelling sera particulièrement important pour elle. Et la religion, eh bien, voilà ce qu'elle écrit en 1916, c'est-à-dire qu'elle a 17 ans. Je ne connais qu'une voie vers Dieu, à travers l'art. Je n'affirme pas que ce chemin est universel, je sais qu'il en existe d'autres. Mais je sens que seul celui-ci m'est accessible. Tout ce qui relève du divin, du spirituel, m'est apparu en premier à travers l'art, à travers l'une de ses branches, la musique. Voilà ma vocation. Je crois en l'art et en ma force dans ce domaine. Je dois éternellement et invariablement évoluer sur la voie des contemplations spirituelles, me préparer pour l'illumination qui viendra un jour. Voici le sens de ma vie ici-bas, je suis un maillon dans la chaîne de l'art. C'est écrit donc en 1916. Peu après, deux ans plus tard, lorsqu'elle a 19 ans, elle va recevoir le baptême. Elle est la seule de sa famille à recevoir le baptême. En ces années mouvementées, l'Église orthodoxe subit aussi beaucoup d'impact de la Révolution. Et très vite, elle choisit la voie de ceux qui demeurent fidèles à la ligne traditionnelle de la religion orthodoxe en Russie. C'est-à-dire qu'elle fait partie des Joséphites. Elle est partisane du patriarche Tihon. Il y a la révolution qui arrive en 1917 et l'Église orthodoxe subit de plein fouet ces mouvements. Et très vite, on va assister à un schisme qui commence en gros en 1925. Et qui va se terminer de façon assez dramatique en 1927 par l'élimination plus ou moins directe de beaucoup d'acteurs de l'époque. Et en particulier d'une figure très importante qui est Fiodor Andreïev, qu'elle rencontre dans la cathédrale du Saint-Sauveur sur le sang versé de Saint-Pétersbourg, là où elle fait ses études à la fois au conservatoire et à l'université. Donc Fiodor Andreïev devient son confesseur, mais très vite il est arrêté en tant que membre des Joséphites, un mouvement qui s'oppose à ce qu'on a appelé l'Église vivante. Et ce qui était une église réformée orthodoxe, en fait un mouvement infiltré par la Tchéka, et on pourrait dire, peut-être pas aux bottes du pouvoir, c'est un petit peu exagéré, mais en tout cas soutenu par le pouvoir. Tihon va être inquiété, il tombe malade, deux ans après il meurt, Fiodor Andreïev est arrêté, finalement libéré quelques mois plus tard, mais il meurt également. Yudina n'aura plus aucune confiance dans cette église et deviendra en fait plus mystique que pratiquante. C'est-à-dire que jusqu'en 1955 environ, elle se méfie terriblement de cette église et ne veut pas remettre les pieds dans un service de l'église orthodoxe.
Pourtant, des lettres écrites plus tard montrent qu'elle est vraiment revenue à l'église et elle est pratiquante. Alors, nous allons déjà commencer à écouter des musiques avec elle. C'est le thème des variations Goldberg, puisqu'elle propose, et vous avez ça dans le livre, tout un plan, un schéma des variations Goldberg, une par une. Il y a un commentaire biblique. Alors, voilà le thème des variations Goldberg par Maria Iudina. C'était donc le thème des variations Goldberg par Maria Iudina. Je rappelle qu'il y a dans ce livre tout le plan qu'elle a elle-même établi avec un commentaire biblique qui correspond à chacune des variations. C'est absolument extraordinaire. Alors, pour le thème, évidemment, elle fait allusion à un psaume, hein, « Que tes demeures sont aimables, Seigneur des armées ». Il y a tout un plan. Alors, si vous voulez nous dire quelque chose là-dessus.
Alors, ça, ce sont des renseignements qui ont émergé peu à peu. Nous avons beaucoup de sources en ce qui concerne la vie, l'activité de Maria Iudina. Nous avons les textes qu'elle a écrits, surtout à la fin de sa vie, et puis les traductions qu'elle a effectuées. Il y en a de très nombreuses. Nous avons les innombrables lettres qu'elle a échangées un petit peu dans le monde entier. Et d'ailleurs, le but de ce livre est aussi de livrer un panorama exhaustif de ses liens avec l'Occident. Et nous avons bien sûr également sa bibliothèque, ses partitions. Alors, parmi ces partitions, il faut citer de façon soulignée les variations Goldberg, effectivement, et puis d'autres œuvres de Bach. Parce que en pleine tradition de l'exégèse, disons, de Albert Schweitzer, et aussi du musicologue allemand Arnold Schering, qu'elle a d'ailleurs traduit, elle voit des symboles dans la musique de Bach. C'est un travail qu'a déjà effectué Albert Schweitzer en se basant sur les cantates et la symbolique des thèmes chez Bach. Et c'est ainsi que dans sa partition des variations Goldberg, qui a été conservée précieusement et qui a été éditée par une de ses disciples, Marina Drozdova, il y a une quinzaine d'années. Cette partition est éditée avec un commentaire pratiquement pour le thème et pour chaque variation. On trouve aussi ce genre d'annotation concernant certains préludes et fugues du clavier bien tempéré. Mais aussi, par exemple, dans une lettre à Balanchine, et c'est dans un extrait que nous entendrons plus tard, elle veut vendre à Balanchine le projet de monter les variations Diabelli, et elle lui explique ce qu'elle entend dans ces variations, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, effectivement, vous avez cité ce qu'elle écrit pour le thème. Elle développe un tout petit peu « Mon âme languit défaillante après les parvis de Yahvé, mon cœur et ma chair clament leur joie au Dieu vivant ». Donc, effectivement, elle ne cite jamais les sources, c'est le psaume 84. Et elle rajoute « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Voilà, qui est un extrait de Matthieu, chapitre 5, verset 8.
Alors là, si vous voulez bien, on va revenir aux variations Goldberg, une variation de la 7 qu'on va entendre en entier avec elle. Et puis, on revient un tout petit peu sur le commentaire des Goldberg, parce qu'évidemment, il y a d'autres œuvres à commenter selon sa manière tout à fait biblique. Maria Iudina dans la variation 7 des variations Goldberg. Variation 7, alors, elle fait allusion évidemment au passage de l'évangile de Luc où il est question de la visite de la Vierge auprès d'Élisabeth. Elle lie toujours la musique à un événement de l'histoire sainte, hein, c'est extraordinaire. Alors, nous revenons à notre entretien avec Jean-Pierre Collot qui a édité cette abondante correspondance. Si vous voulez bien nous dire aussi deux mots concernant l'univers dans lequel elle a évolué. Ce livre est consacré à la correspondance qu'elle a échangée avec quelqu'un qui est russe mais qui est de l'autre côté du mur. Et puis on voit, quand on feuillette le livre, des noms apparaître, des noms très connus. Shostakovich bien sûr, mais on voit aussi Boulez en France, on voit Balanchine, vous avez dit tout à l'heure, un chorégraphe. Il y a des gens aussi, ça dépasse le cadre de la musique. Ça dépasse le cadre de la Russie et ça dépasse le cadre de la musique. Donc, un esprit beaucoup plus ouvert. Comment fait-elle pour communiquer avec tout ce monde-là ?
Eh bien, effectivement, c'est quelqu'un qui, dont l'horizon est extrêmement vaste. Il y a dans le livre qui ne se limite pas à la correspondance avec les Occidentaux. Hein, il y a aussi un certain nombre de documents, y compris un entretien avec le philosophe Mikhaïl Bartine, qui donne un portrait extrêmement vivant de la pianiste et qui souligne le fait qu'on ne pouvait pas la mettre dans un tiroir. C'est quelqu'un qui, même d'un point de vue professionnel, ne pouvait pas être enfermé dans le domaine du piano. Pour elle, le piano pur n'était absolument pas intéressant. Il fallait qu'il soit dépassé. Ce serait peut-être intéressant de lire un extrait de ce document. Voilà très précisément ce que dit Bartine dans un entretien qu'il a avec un spécialiste de la littérature, Douvakin. Bon, qu'est-ce qui impressionnait le plus chez elle ? Tout d'abord, elle aimait exécuter de la musique puissante, voyez-vous, Bach, Liszt, Beethoven, ensuite certains compositeurs contemporains nouveaux. Mais précisément cette musique forte, musique qui, oui, pour ainsi dire, était à la frontière de la musique et de quelque chose de plus élevé, de mythologique ou de religieux. C'est ainsi que je considère les choses. Ce qui fondamentalement caractérise Maria Veniaminovna, comme personne et comme artiste, c'est qu'elle n'a jamais pu d'aucune façon se glisser dans un phare, c'est-à-dire dans une spécialisation quelle qu'elle soit. Il lui était impossible de se réduire à la musique. Elle essayait continuellement d'atteindre quelque chose de plus vaste, à travers la religion, puis à travers l'activité sociale. Un petit peu plus loin, il dit « Intérieurement, c'était pareil. Elle allait chercher la musique du côté soit de la poésie de type romantique, soit de la révélation religieuse. Elle débordait le cadre du strict professionnalisme musical. »
Rien de mieux pour introduire la musique suivante, une œuvre colossale aussi de Beethoven, la variation Diabelli. On entend un extrait et puis on va voir un petit commentaire sur son interprétation de cette musique de Beethoven. Voilà donc un extrait des variations Diabelli par Maria Iudina, musique de la passion, dit-elle, Jean-Pierre Collot.
Tout à fait. Cet extrait d'une lettre à Georges Balanchine, le grand chorégraphe d'origine russe. Voilà ce qu'elle écrit dans ces variations Diabelli. On trouve entre autres, et là je cite en vrac ce qu'elle écrit, un grand hôtel de Pergame, en ut majeur, elle parle de la variation 14, une passionsmusik, en ut mineur, une icône, louange à la Vierge Marie, finale, là elle parle de la variation 33, un gloria, en mi bémol majeur, la fugue, ensuite une petite fugueta modale, pareille à la musique du temps de Luther au XVIe siècle, c'est la variation 24, enfin une citation de Mozart, Don Juan, la variation 22 bien connue. Et donc ce que nous venons d'entendre, c'est ce qu'elle décrit comme passionsmusik, dans son style très particulier, toujours mélangeant en russe beaucoup de mots allemands, de citations françaises, etc. Et beaucoup de latin également.
On voit bien donc qu'on a affaire à une personnalité qui dépasse de loin le cadre d'une musicienne, je dirais, même si musicalement, ce qu'elle fait, génial. Hein. Et d'ailleurs, comme musicienne, c'est une musicienne très directe. Quand on entend ces enregistrements, on est frappé par la manière, pas violente, mais en tout cas très directe, justement, c'est le mot qu'elle a pour aborder des œuvres du grand répertoire. Alors évidemment, le temps ne permet pas d'aller très loin aujourd'hui, mais on va terminer cette première émission consacrée à Maria Iudina et sa correspondance avec un extrait de Schumann, c'est un extrait des Scènes de la forêt, donc l'oiseau prophète, morceau par excellence, évidemment, qui inspire un esprit comme elle. Hein. C'est une interprétation, elle aussi frappante, aussi par la manière très directe qu'elle a pour faire certaines choses. Alors, je crois qu'elle a enregistré que cette partie des Scènes de la forêt, c'est ça ?
Tout à fait, elle l'a enregistré. On a deux enregistrements d'elle de cette œuvre, une fois live, un enregistrement qui n'est connu que depuis quelques mois, et un enregistrement de studio de 1952. On est dans l'un des exemples les plus expérimentaux de l'art de Iudina. celle peut-être où elle prend le plus de risques et où elle projette cette musique dans le futur, comme dit très justement sa disciple Marina Drazdova. Pourquoi ? Parce que on a l'impression que la temporalité s'efface et qu'elle projette cette œuvre dans le monde de la musique du XXe siècle. Son oiseau prophète devient pratiquement une figure désincarnée, pratiquement j'y entends même une atmosphère raréfiée. On est dans les sommets de l'interprétation chez Yudina.
Donc, pour terminer peut-être cette première émission, je vais juste citer un tout petit peu un article de Drozdova qui figure à la fin de votre livre où vous donnez des documents sur elle. Justement, il est dit dedans que c'est parce que la musique était sa vocation qu'elle lui ouvrait le chemin vers Dieu. Yudina écoutait la musique en lisant Kant et en étudiant les évangiles. Pas d'art sans racines religieuses, disait-elle. Je crois que c'est une phrase qui peut résumer l'art et puis le génie de cet artiste ô combien précieuse. C'était donc notre première émission sur Maria Yudina et sa correspondance. Je rappelle le livre évidemment paru cette année aux éditions Contrechamp. Maria Yudina, Pierre Sufczynski, correspondance et documents 1959-1970. Édité et traduit du russe et de l'allemand par Jean-Pierre Collot, que je remercie beaucoup pour cette première émission. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Élise Leu. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Voici maintenant le service protestant.